Vatican News, le journal, il est 8h30.
Condamnation pour abus sexuels sur mineurs du cardinal Pell confirmée par la justice australienne. Les avocats du cardinal ont maintenant 28 jours pour en appeler à la Cour suprême. Démission du chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte prend acte de la rupture unilatérale décidée par son ancien allié Matteo Salvini. Le président de la République entame aujourd'hui des consultations pour tenter de dégager une nouvelle majorité. Dans notre dossier, nous reviendrons sur la situation politique au Kyrgyzstan. Le président actuel est en train de vouloir mettre en prison son prédécesseur qui l'accuse de vouloir le renverser.
Le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, l'appel du cardinal George Pell rejeté en Australie par la justice. La Cour suprême de l'État de Victoria confirme ainsi la condamnation pour abus sexuels sur mineurs prononcée en février lors du procès en première instance. Et désormais, Delphine Allaire, les avocats du cardinal ont 28 jours pour faire appel.
Tout à fait, Xavier. Près d'un mois donc pour faire appel de cette décision de justice tombée en pleine nuit. Il s'agira de l'ultime recours possible à cette décision. Une décision qui arrive après qu'un premier procès pour des délits anciens d'abus sexuels se soit conclu sans verdict, suivi d'un second procès dans lequel le jury a approuvé à l'unanimité un verdict de culpabilité à l'encontre de l'ancien archevêque de Sydney. Un deuxième chef d'inculpation a en revanche été rejeté par le tribunal pour manque de preuves admissibles. Le Vatican, qui prend acte ce matin du rejet de cet appel, réitérant son respect pour la justice australienne. Le Saint-Siège confirme surtout sa proximité avec les victimes d'abus sexuels et même son de cloche chez l'épiscopat australien. Les évêques affirment dans un communiqué accepter naturellement ce jugement et penser surtout aux enfants victimes des abus sexuels. George Pell, 78 ans, a été incriminé fin juin 2017 après 2 ans d'enquête pour délits anciens de violences sexuelles. Il s'était déclaré à l'époque innocent et le pape François avait alors accordé à l'ancien préfet pour l'économie du Saint-Siège une période de congé pour se défendre.
Delphine Allaire, et pour plus de détails, vous pouvez vous rendre bien évidemment sur notre site internet www.vaticannews.va. L'issue ne faisait guère de doute depuis plusieurs jours en Italie. Le gouvernement est tombé. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a présenté hier après-midi sa démission devant les sénateurs. La coalition gouvernementale entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue a volé en éclats le 8 août dernier quand Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, avait retiré sa confiance à ses partenaires de gouvernement à Rome, Blandine Gonnet.
Entre cris et applaudissements, Giuseppe Conte annonce la fin officielle de son gouvernement. Devant les sénateurs hier, le président du Conseil a été très clair. Le responsable de cette crise politique, c'est Matteo Salvini. C'est lui le chef de la Ligue d'extrême droite qui a mis fin à la coalition le 8 août dernier, en cause les divergences trop profondes avec son allié du mouvement 5 étoiles. Une décision qualifiée d'irresponsable. Pour Giuseppe Conte, son ministre de l'Intérieur est opportuniste et met en péril l'économie italienne, dénonce le chef de l'exécutif. Car si aucune majorité n'est trouvée pendant les consultations qui commencent aujourd'hui à Rome, un vote anticipé pourrait avoir lieu en octobre prochain. C'est une période cruciale pour l'Italie qui doit élaborer à ce moment-là son budget 2020. Pour les démocrates de l'opposition et les 5 étoiles, il faut donc éviter un scrutin et trouver une entente, même transitoire. Pour cela, les deux anciens partis ennemis n'écartent pas l'idée de créer une alliance. Ensemble, ils obtiendraient la majorité au Parlement pour former un nouvel exécutif. Pour l'heure, les cartes sont dans les mains du président de la République italienne, Sergio Mattarella. C'est lui qui aura le dernier mot pour déterminer qui peut prendre la suite du premier gouvernement populiste d'Italie qui n'aura tenu que 14 mois. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
La crise politique italienne a fait passer au second plan le sort des migrants de l'Open Arms. Ils ont débarqué cette nuit à Lampedusa sur décision de justice. Le procureur d'Agrigente en Sicile a en effet ordonné que les rescapés soient débarqués, que le navire de l'ONG espagnol soit séquestré. Cette décision a été prise en raison des fortes tensions à bord. En tout, 80 personnes sauvées en mer il y a 19 jours ont rejoint la terre ferme sous escorte. 15 avaient sauté la veille du bateau dans un geste de désespoir. Le reste des mineurs et des malades avaient déjà quitté le navire. Boris Johnson sur le continent pour convaincre les Européens de sa vision du Brexit. Le Premier ministre britannique est aujourd'hui à Berlin avant de se rendre demain à Paris pour y rencontrer la chancelière allemande et le président français. Aucune avancée particulière n'est à attendre. Finalement, Donald Trump n'ira pas début septembre au Danemark. Le président américain avait été invité par la reine Margrethe II, mais sa volonté affichée d'acheter le Groenland... territoire danois n'a pas été apprécié, la première ministre danoise le lui faisant savoir. Du coup, Donald Trump a décidé d'annuler sa visite. Donald Trump qui a annoncé en revanche hier que des contacts à très haut niveau avaient eu lieu entre les États-Unis et Caracas, ce qu'a confirmé ensuite le président vénézuélien Nicolas Maduro. Ces échanges ont eu lieu depuis des mois, ce qui n'empêche pas les tensions entre les deux pays, l'administration américaine soutenant ouvertement l'opposition, Juan Guaido, autoproclamé président par intérim du Venezuela. La situation dans les territoires palestiniens est plus explosive que jamais. C'est ce que confirme un rapport de l'autorité palestinienne en Cisjordanie qui souligne les effets de la colonisation israélienne et les tensions autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, sans parler de la bande de Gaza asphyxiée par le blocus israélien. Le point avec à Jérusalem, Valérie Ferrand.
La mort de trois Palestiniens tués dimanche par l'armée israélienne alors qu'ils tentaient de franchir la barrière qui encercle la bande de Gaza a relancé de plus belle les menaces israéliennes de mener une offensive majeure contre ce territoire et les promesses des factions palestiniennes de réagir en conséquence. Les factions ont dénoncé l'attaque comme un crime hideux contre trois jeunes qui, pour le djihad islamique, débordaient tout simplement de colère. Le Hamas a de son côté prévenu qu'une nouvelle escalade ne pourrait être empêchée si Israël n'allégeait pas son blocus. Les factions palestiniennes ont comparé la situation à celle d'une cocotte minute en ébullition, prête à exploser à tout instant à la face de la puissance occupante israélienne. La situation est également explosive en Cisjordanie, notamment à Jérusalem, où les extrémistes israéliens poursuivent leur coup de force contre l'esplanade des mosquées, alors que colons et soldats multiplient les violences, arrestations et saisies de terres, en particulier dans les régions de Naplouse et de Ramallah. Les services de renseignement parlent d'un possible soulèvement d'ampleur à venir, soulignant que les 15-25 ans ne supportent plus la situation. Jérusalem, Valérie Ferron, Vatican News.
Au Cachemire indien, un homme qualifié par les autorités de terroriste et un policier ont été tués au cours d'une fusillade, annonce faite ce matin. Les échanges de tirs ont opposé des activistes aux forces de sécurité. Cet accrochage est le premier à être rapporté officiellement depuis que le gouvernement indien a révoqué le statut d'autonomie spéciale du Cachemire. Rupture de stock de pétrole lampant à Madagascar. Ce combustible est utilisé par les ménages les plus pauvres pour s'éclairer dès la tombée de la nuit. La situation est particulièrement préoccupante dans les régions les plus rurales du pays. La pénurie gagne également la capitale où les coupures d'eau et d'électricité par ailleurs se multiplient. Et aucune explication claire n'est donnée aux consommateurs. À Antananarive, le reportage de Sarah Tetto.
Dans les rues de la capitale, bouteilles en plastique vide à la main, Tina marche de station essence en station essence, bien décidée à trouver du combustible.
Chez moi, à Itosé, en banlieue, il n'y a plus de pétrole depuis 3 semaines. Avant, dans toutes les petites épiceries, j'en trouvais. Mais en ce moment, plus personne n'en a. Moi, je m'en sers pour allumer le feu et pour mettre dans mes lampes. C'est un problème qu'on n'en trouve plus parce que le pétrole, par rapport à la bougie, c'est plus économique.
Seulement à chaque demande...
Bonjour, vous avez du pétrole lampant ?
La même réponse.
Non, on en a plus.
Peu prolixe sur le sujet, l'un des pompistes se risque quand même à donner une explication.
C'est difficile de vous dire s'il y en aura demain, parce que ça dépend du dépôt. Peut-être qu'il y en a encore au dépôt, hein, mais en tout cas, ça fait une semaine que plus rien ne sort de là-bas. Et nous ici, on est en rupture de pétrole. Jamais ça n'était arrivé avant.
Il y a 2 mois, les autorités et les pétroliers s'étaient mis d'accord pour baisser le prix du pétrole. Les consommateurs soupçonnent aujourd'hui ces derniers d'avoir organisé la pénurie afin de pouvoir augmenter à nouveau les prix lorsqu'ils réapprovisionneront les stations-service. Contacté, le groupement pétrolier de Madagascar n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Antananarivo, Sarah Tetto pour Vatican News.
Au Burkina Faso, nouveau bilan de l'attaque d'un camp militaire lundi matin. 24 militaires ont été tués, 7 blessés, 5 sont portés disparus. C'est le revers le plus meurtrier pour l'armée burkinabée depuis 2015 et le début de sa confrontation avec les groupes djihadistes. L'opposition a réclamé hier la démission du gouvernement. Dans une région qui connaît certains des régimes les plus autoritaires au monde, le Kyrgyzstan fait figure d'exception. En 1991, l'ancienne République soviétique a procédé, sous l'impulsion du président Bakiyev, à de nombreuses réformes pour démocratiser le pays. Les élections donnent d'ailleurs lieu aujourd'hui à une véritable concurrence. Mais la Suisse d'Asie centrale connaît un regain de fièvre. L'ancien président Almazbek Atambayev a été placé en détention, poursuivi pour des faits de corruption. Il a été interpellé le 8 août, à l'issue de deux assauts contre sa résidence qui ont mobilisé plus de 2000 policiers, fait un mort et 170 blessés. Selon le chef du service national de sécurité, Almazbek Atambayev aurait tenté de renverser son successeur à la tête de l'État, son ancien dauphin, Soumrombay Jeenbekov. Boris Petrich, anthropologue au CNRS et chercheur au Centre Norbert Elias à Marseille, revient sur les rapports qui lient les deux hommes qui sont à l'origine de la crise.
En 2017, Atambayev a été obligé de laisser le pouvoir parce que la Constitution l'interdit de faire un deuxième mandat. Et donc Atambayev, lorsqu'il a quitté le pouvoir, comptait sur Jeenbekov pour continuer à influencer la vie politique. Et ce dernier n'a pas supporté les ingérences systématique de l'ancien président et a petit à petit fait une purge pour mettre de nouveaux hommes de confiance dans les instances politiques. Et donc ça faisait déjà un an que les relations étaient très tendues entre les deux anciens amis et anciens alliés, qui a débouché sur la crise qui a conduit les forces spéciales à intervenir pour arrêter l'ancien président Atambayev.
Est-ce que il faut craindre une partition du pays? Quels sont un peu aujourd'hui les rapports de force après l'arrestation d'Atambayev?
Alors écoutez, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu aussi tout un ensemble de visites de l'ancien président Atambayev et de l'actuel président à Moscou. Parce que la Russie joue un rôle important. Et l'intérêt de la Russie, c'est de garantir une stabilité dans la région. Donc Dmitri Medvedev, le premier ministre russe, a tout de suite fait des déclarations appelant au calme et à la stabilité de la région. Ça signifie que les Russes ne soutiennent pas Atambayev et soutiennent plutôt l'actuel président dans la perspective d'une stabilité politique. En même temps, il y a une ancienne figure politique du Nord, qui est un homme d'affaires qui était réfugié en Russie depuis quelques années, qui est retourné à Bishkek et qui est quelqu'un qui peut influencer la vie politique. Mais je crois surtout qu'il y a des négociations pour répartir un peu les nouvelles influences. Je ne crois pas que nous allons aller vers une nouvelle révolution, de nouvelles manifestations, car je ne pense pas qu'Atambayev incarne une légitimité au Nord, et je pense que la population n'est pas dupe et sait que cet ancien président a aussi beaucoup utilisé le pouvoir à des fins personnelles.
Quelles seraient les conséquences d'une déstabilisation durable du pays pour la région et pour la Russie en particulier? Même si le Kyrgyzstan, on l'a compris, est un petit pays, quelles peuvent être un peu les conséquences?
Le Kyrgyzstan est un pivot géopolitique dans la région. C'est un petit pays de 6 millions d'habitants, mais qui a une frontière avec la Chine, qui est aussi un foyer important d'islamisation au sud et donc de formation de rébellions islamistes. Donc un chaos au Kyrgyzstan pourrait avoir des conséquences pour l'Ouzbékistan, pour le Tadjikistan, pour l'Afghanistan. Et donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la Russie laisse faire. On peut s'attendre au contraire à de multiples interventions et de négociations pour contribuer à une stabilité politique.
C'est Moscou qui a les cartes en main.
Je ne pense pas que Moscou a été à l'initiative de ce qui s'est passé, mais Moscou, avec toutes les relations politiques que la Fédération russe a au Kyrgyzstan, va jouer un rôle très important pour stabiliser la région. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie qu'il y ait un chaos au Kyrgyzstan, car il y a beaucoup d'émigrés kirghiz en Fédération de Russie, qu'un exode massif n'est pas du tout souhaité de la part du gouvernement russe. Et par ailleurs, une instabilité dans le sud permettrait aussi à des foyers de radicalisation islamiste de prospérer, et ce n'est pas aussi dans l'intérêt de Moscou. Donc Moscou joue un rôle très important aujourd'hui au Kyrgyzstan et va arbitrer et négocier pour contribuer à une restauration de la stabilité politique de ce pays.
Interrogé par Olivier Bonnel, Boris Petrich, anthropologue au CNRS et chercheur au Centre Norbert Elias à Marseille, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h heure de Rome. D'ici là, notre site internet, notre page Facebook ainsi que notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.